Radio Campus Tour, 99.5 FM.
La musique, s'il vous plaît. Parfois, dans la vie, on a tendance à se surprendre soi-même. On fait des choses inattendues auxquelles on imaginait ne jamais succomber. Des plaisirs coupables qui vous font regretter d'être aussi influençable. Des rendez-vous manqués avec votre conscience. Une éternité à vous demander « Mais pourquoi, putain ? Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais le plus drôle, vous savez, messieurs, c'est que je ne regrette rien. Pas un instant, pas une minute, pas un regard. Ce que j'ai à vous montrer ce soir risque de vous surprendre, de vous étonner, voire même de vous choquer. Les amis, voici donc l'objet des discordances. Voici donc le hype de la nouveauté. Voici quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas de cette émission. Mes amis, ce soir, et en exclusivité pour vous, elle est ici, vous allez pouvoir la tester ce soir. Voici la Nintendo Switch. Et vous allez pouvoir la tester en direct pendant cette émission.
C'est formidable.
Effectivement, j'ai craqué. Ça fait 15 jours que je vous tease avec Zelda. Effectivement, je n'y joue pas sur Wii U, j'y joue sur Switch depuis tout ce temps.
Incroyable.
Mais comment il a réussi à tenir un secret?
Comment j'ai réussi à tenir un secret? C'était pas ton très genre, très dur. Je me suis retenu de poster des photos partout. Effectivement, du coup, je vais juste pour vous, je vais faire passer la console pendant l'émission. Vous allez pouvoir la tester et après le reportage qu'on va diffuser, vous allez me donner vos premières impressions sur la console, sa prise en main et Zelda et Sniper Clips que vous pourrez aussi
bien jouer. Ouais.
Voilà.
Alors là, pour ceux qui écoutent, si vous dites on va parler de news de la Switch, on va en parler pour de vrai avec un truc en face.
Avec la console, incroyable. Après un an à dire que la Switch, la NX ne sortirait pas.
De toute façon, c'est obligé qu'elle soit sur le plateau en vrai.
C'est pour ça qu'il a pas mis de photo de la version Wii U. C'est tellement pas son genre de faire ça.
Je tiens à préciser que la version Wii U est quand même chez moi. Elle est emballée, mais elle est toujours.
Et elle sera emballée.
Elle restera emballée quoi qu'il arrive.
T'as pensé à la mec en banque avec un petit truc?
J'y ai pensé, mais vous allez voir tout à l'heure, vous allez pouvoir la tester. Du coup, on va passer directement à l'introduction et je crois qu'on a un petit jingle d'intro.
Je suis trop plein d'émotions.
Jingle
des news du coup.
Ça fait deux semaines ou quoi.
Pardon.
Bon alors, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas de news cette semaine, on va surtout revenir pour ce 34e numéro de C'est la faute à la manette. On va revenir sur un élément récent finalement de la vie de joueur, que sont les succès. Alors les succès, c'est ces petites récompenses que l'on obtient quand on fait une certaine action, ou pas d'ailleurs, on verra ça un petit peu tout à l'heure, il y a des choses bien, il y a de l'abus aussi parfois. On essaiera d'y revenir le plus vite possible, on reviendra également sur la Japan Tour Festival, on a envoyé Ferdi là-bas, il a interviewé plein plein de gens et on a presque 18 minutes hein, je crois de,
oui,
d'interview. Pendant ce temps là vous testerez donc Zelda hein, c'est pour ça que je t'avais demandé le temps de l'interview depuis quelques
c'était
temps.
Bien foutu
et il y aura effectivement juste après les impressions de la Switch et de Zelda et de Snipper Clipper si vous avez envie de l'essayer juste après ça. On continuera donc par le débat dont je vous ai parlé, on finira par un tout petit quiz donc voilà, comme d'habitude il y a Ferdi autour de la table hein, il aime les Iliens mais il a plutôt la taille d'un Kokiri, c'est Ferdi. Salut Ferdi, comment ça va?
Bonjour à tous, ça va très bien.
Cool. Il aimerait un open world avec un écureuil, c'est Guillaume. Salut Guillaume.
Ah, bonjour à tous.
Il chie allègrement sur les consoles, mais pourrait bien tuer pour un nouveau Wind Waker. C'est Tom.
Bonjour. Salut Tom. À tous, salut Julien.
Et un petit invité, bonjour petit invité.
Bonsoir.
Quel est ton Zelda préféré?
Alors, j'en ai pas essayé énormément, j'ai essayé celle sur Wii. Faudra me rappeler le nom.
Skyward Sword ou Twilight Princess.
Twilight Princess, c'est ça, ouais. Okay. Ouais.
Bon, c'est déjà pas
excellent.
Mal. C'est déjà pas mal. Du coup, on va directement commencer par toi, Ferdi. Tu vas nous présenter un peu ce que tu as fait à la Japan Tour et on va lancer directement.
Alors,
pendant ce temps-là, je ferai tourner la console.
Pendant 3 jours, j'étais à la Japan Tour Festival 2007. Alors, c'était agréable. J'ai, comme bon point positif, quand même parlé de la mise en place des stands et des invités, etc., qui étaient quand même logiquement placés, donc ceux qui vendent en même temps. Pas de concurrence directe entre les différents invités, exposants, etc. Donc ça, c'était cool. J'ai rencontré énormément de monde. J'ai rencontré toutes les assos de Tours. Alors, j'ai refait des gros câlins à tous ceux que j'ai rencontrés. Connecti Sport, Algeek Studio, etc. etc. J'ai rencontré des gens formidables que j'ai eu en interview. Des gens qui vont venir à nos émissions prochainement, donc genre Fanelia, El Mobo, etc. Des gens ou Charlotte, qui sont professionnels, qui sont adorable. Cette Japan, c'était un très très bon moment. Petit bémol pour Benzaï qui était dans le carré VIP des dédicaces, mais qui a passé des jours, des après-midi tout seul.
Ah, c'était horrible.
C'était ouais, il était un peu délaissé. Il l'a dit, il était très fatigué. Il aurait aimé des pauses. Il aurait aimé du monde, quoi. Voilà, il aurait aimé du monde avec lui. L'année dernière, il était avec Bob, donc ça allait, mais là, cette année, il était donc tout seul.
Ah, c'était vraiment tristouner de le voir dans un coin.
Ouais, il était dans un des angles de. Ouais. Ouais.
Mais du coup, il avait personne qui venait le voir.
Si, mais il avait personne, tu vois, je veux dire,
pour passer du temps, quoi.
Une deuxième.
Ah oui, d'accord, il n'avait pas d'autres présences.
Il était tout seul dans un coin.
Il avait juste certains du staff qui venaient, mais qui se relayaient, donc il avait.
Bah, en fait, le gros souci de cette année, c'est qu'il y avait lui seul en gros youtubeur. Par exemple, l'année dernière, il y avait le joueur du grenier, il y avait.
La partie.
Mais là, il y avait rien. Enfin,
en fait, à la Japan, ils ont un petit peu sous-estimé la partie dite geek de leur programme. Donc, tradition impeccable. Manga cette année, c'était génial. Monsieur Albator, Monsieur Mecha, Mechtech, etc. Enfin, ça, c'était génial. Mais la partie geek en elle-même était vraiment en dessous.
D'accord.
Voilà. Donc là, les interviews que vous allez écouter, c'est des interviews. J'en ai sélectionné 18 minutes. J'en ai beaucoup plus. Donc je suis désolé pour les gens qui étaient interviewés, qui ne seront pas. Il faut savoir que normalement, d'ici la semaine prochaine, il y aura une autre émission de la radio qui s'appelle Sortez, où on fera un retour sur la Japan et où je mettrai plus d'interviews et je parlerai de chacun, etc.
Voilà. Ok, très bien. Et bah, du coup, on va lancer la diffusion hein, directement. Ça dure combien de temps, on avait dit
18 minutes à peu près.
Et bah, c'est parti. Et on se retrouve juste après danser la faute à manette sur Radio Campus Tour.
Bonjour à tous, c'est Ferdi de l'émission C'est la faute à la manette sur Radio Campus Tour. Je suis à Japan Tour Festival 2017 et je suis avec une invitée. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour à tous et toutes. Stéphanie Kikampois, alias Fanelia. Je suis illustratrice et auteure et je suis à Japan Tour avec un grand stand où j'expose mes tableaux.
En parlant de tes dessins, tu peux nous dire un peu ton univers, nous décrire pour que. On est en audio pour que les auditeurs aient quand même. Voir un peu, essayent d'imaginer un peu ce que tu fais.
Alors, mes dessins, c'est surtout. J'ai plusieurs types de dessins. J'ai vraiment quelque chose de très coloré, acidulé, avec beaucoup de portraits. Beaucoup de femmes, c'est vrai que j'aime bien. Avec vraiment toutes les couleurs possibles. Et après, je peux passer très bien directement à du fan art de jeux vidéo, genre Overwatch, World of Warcraft ou d'autres jeux auxquels je joue. Hein. Et je peux aussi faire de la dark fantasy. Puisque j'adore ça, la fantasy déjà j'aime beaucoup, la dark fantasy j'apprécie d'autant plus.
Alors, certains te connaissent aussi à travers d'autres youtubeurs, d'autres personnes assez connues de l'internet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes travaux pour essayer de donner envie aux éditeurs de découvrir un peu ce que tu fais?
Alors, pour ce que je fais, alors ça peut aller très bien de l'illustration que je vends, en fait, parce que je vis de ça, que je vends en salon et que je vends, que je fais imprimer, parce que moi je fais que du numérique et je les fais imprimer sur du PVC pour donner en fait des tableaux qui sont abordables pour le public. Parce que des toiles, ça peut être très très cher. Je peux aussi bien faire des couvertures de livres, peut-être aussi des illustrations, par exemple, ou du character design pour du jeu vidéo. J'ai notamment participé au jeu Rage of Bahamut, un jeu japonais, un jeu de cartes japonais qui cartonne au Japon. Il y a d'ailleurs eu un animé. Voilà, on m'a demandé de faire des cartes et j'ai fait des cartes. C'est tout un tas de travaux que je réalise. C'est uniquement de l'illustration. Voilà. On m'a jamais demandé d'écrire quoi que ce soit ou d'inventer une histoire pour le moment. C'est juste des travaux d'illustration. Je peux aussi faire des logos, des choses comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà.
Et dernière question, est-ce que tu peux nous donner envie pour tes prochains projets un petit peu, voilà, est-ce que tu veux donner envie aux auditeurs d'attendre une certaine attente, est-ce que tu as des projets, des choses à nous proposer dans le futur?
Oui, tout à fait. Alors en fait, moi je suis en train de faire un livre d'énigmes illustrées qui s'appelle La Clé, qui a été financé sur Ulule en 2016. Qui a récolté plus de 1100 contributeurs, donc c'est assez énorme. Et je m'occupe de terminer le bouquin là en ce moment même, entre deux salons, je m'occupe de finir ça. Alors le livre, en fait, c'est vraiment un livre, pas un livre dont on est le héros, mais plus il va falloir chercher où est l'énigme, quelle est l'énigme et comment la résoudre, et avec mes illustrations. Et pour une fois, je serai auteur, donc je raconte vraiment une histoire et ce sera la première fois que on va me voir en tant qu'auteur véritablement. Et donc j'ai tout fait de A à Z. Je m'occupe de tout de A à Z, voilà. Et juste pour terminer sur le projet, je fais des cinématiques d'introduction et de fin qui sont liées à la clé, et avec des personnages publics et connus. Du style Serena Chan, Jean Dugrenier, Circle, Gaïa, des noobs, etc. Qui vont prêter leur voix pour les cinématiques. Donc voilà.
Je te remercie pour la petite interview ici à la Japan Tour. Un dernier petit mot pour nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, etc. N'hésite pas.
Alors, petit mot, voilà. Et on peut me retrouver sur Facebook, Twitter, bientôt à la radio d'ailleurs, parce que hein, je crois que je suis invitée à passer. Donc, je passerai volontiers. Et sur mon site internet, j'ai une boutique en ligne, donc faut pas hésiter à passer. Et puis, en salon, hein, je fais pas mal de salons, les Geek Fairies, notamment dans le coin, Japan Expo qui sera à Paris. Voilà, ou d'autres salons qui sont un peu plus loin, je sais pas si les Tourangeau et Tourangelle vont passer à Toulouse, on sait jamais, hein. Donc voilà, mais je fais pas mal de salons comme ça.
Toujours à la Japan Tour 2017, je suis encore avec une nouvelle invitée. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
Alors bonjour à tous et à toutes, en fait je suis Serena Chan, je suis illustratrice en freelance et là sur le Japan Tour, c'est que j'ai pas de stand à présenter, en fait c'est que je donne un coup de main à Fanelia qui est toute seule à gérer son stand de 20 mètres carrés je crois. Donc voilà, je me suis portée volontaire vraiment pour donner un coup de main, en fait je suis discrète, je suis une chinoise et je suis une asiatique vraiment qui travaille dans la cave.
Donc tu nous as dit que tu étais illustratrice, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail, quel style de dessin tu fais, quel style d'univers, etc.
Alors en fait, mon style d'illustratrice, c'est plus orienté sur l'art nouveau. Sur normal, l'art nouveau, tout ce qui est forcément manga. En fait, mon style est très manga, semi-réaliste. En fait, tout dépend de mon inspiration. Et j'adore vraiment aussi tout ce qui est digital, vraiment les couleurs, ben, les influences vraiment de l'art nouveau, plus les clamps qui ont fait Cap-Captor Sakura, Chasseuse de cartes, Showbiz, Tsubasa, Reservoir Chronicle, etc. Hyun Taeng Kim qui a fait vraiment Magna Carta, mais avec des couleurs, mais sans ça. Waouh, il y a quelqu'un, il y a un connaisseur, ah oui, ça fait plaisir. Et du coup, vraiment, je mélange un peu le tout pour vraiment créer mon propre univers. Mais là, maintenant, je suis plus axée portrait. Je suis plus axée portrait et ma passion dans le dessin, c'est les cheveux. J'adore dessiner les cheveux. C'est vraiment pour moi les courbes, mais sensationnelles, mystérieux à la fois. Et vraiment, je m'amuse. C'est comme en fait un dessin de un coloriage de relaxation. C'est exactement ça, dessiner des motifs, mais vraiment passer des heures dessus sur un seul dessin, ça m'apaise en fait. Ça m'inspire, ça m'apaise et c'est pour moi rayonnant en fait dans les yeux. Voilà. Mais sinon, je participe dans l'émission du Bazar de Grenier par l'équipe Joueurs du Grenier, l'équipe Aventure qui est plus fantasy. Donc ça, c'est vraiment tout un autre style que je fais. C'est aussi un entraînement parce que je n'ai jamais fait ça avant. Et en plus parce que je n'aime pas dessiner les garçons de base en fait, et du coup ça m'a permis j'ai pas le choix de dessiner des mecs, hein, pas le choix, ben, des mecs barbus comme ça peut être des mecs tout maigrichons. Et non, c'est vraiment depuis, ça croit, ça fait depuis un an que je fais ça, donc du coup je commence à connaître un petit peu vraiment le truc, je commence plus ou moins à évoluer mon style et du coup c'est un bon entraînement et du coup ça fait plaisir, ça me permet vraiment de faire un peu autre chose aussi, ça fait du bien. Voilà.
Donc certains te connaissent à travers des vidéos YouTube d'aventure. Est-ce que l'animation est quelque chose qui t'intéresserait? Parce qu'on voit des fois que tes dessins sont animés façon montage. Est-ce que c'est quelque chose, une voie qui t'intéresserait dans le futur?
En fait, j'ai fait Bac plus 2 cinéma d'animation, c'était il y a très longtemps. Le souci, c'est que l'animation, c'est pas vraiment ce que je préfère. C'est... En fait, le gros problème, c'est que je n'arrive jamais à faire toujours les mêmes têtes. J'ai beau observer, mais je sais qu'il manque toujours un truc. Comme je suis quelqu'un de perfectionniste, du coup, je perds énormément de temps. Mais j'ai quand même, malgré tout, la licence. Donc, du coup, voilà, je suis un peu tranquille. Mais ce n'est pas vraiment ce que je préfère dans l'animation. Je préfère, en fait, c'est tout ce qui est background, les décors, le chara-design, voire même le storyboard, ça m'intéresse. C'est un peu comme si on fait de la BD. Au moins, c'est un peu de la travail, de la composition, avec les petites touches colorées et tout. Mais l'animation, c'est pas vraiment ce que je préfère. Après, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. C'est juste que c'est une question de personnel, de goût. Voilà.
Et pour finir, tu peux nous dire, est-ce que tu as des projets, des projets de dessin ou quoi qu'il soit qui arrivent dans le futur?
J'ai plusieurs projets, dont un que je vais faire vraiment un recueil de toutes mes illustrations, mais de mes vieilles illustrations de genre de 2007 jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai que je n'ai fait aucun livre en fait, tout simplement. Et là, je compte vraiment dire, bon, ça fait pas mal, j'aimerais bien faire un tri. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais les cheveux par exemple. Donc voilà, j'essaye vraiment de montrer mes vieilles illustrations, vraiment de voir mon évolution. Et peut dire que voilà, je ne fais pas ça tout d'un coup, ce n'est pas en un an, voire même en quelques minutes que j'arrive à faire, c'est que c'est des années et des années de boulot, d'inspiration, de motivation, d'observation. Et j'en ai d'autres projets, c'est j'aimerais faire des contes illustrés. J'ai une histoire, en fait il s'agit d'un projet de fin d'année de cinéma d'animation que je n'ai pas fini d'ailleurs et que j'aimerais vraiment le retranscrire sous forme de contes illustrés. Mais je n'en dis pas plus. Voilà.
Bah, merci à toi pour cette petite interview. Est-ce que tu as un dernier petit mot, une dernière petite chose à dire?
Je vous aime très fort. Des gros bisous.
Toujours à la Japan Tour 2017 et j'ai un nouvel invité à côté de moi. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je suis Lodoc et je suis un gros passionné de Dragon Ball Super parce que Dragon Ball Super, c'est la vie. Yeah!
Quel est ton vrai univers, Lodoc? Vas-y, explique ta passion, montre à quel point tu aimes
Alors, j'aime beaucoup One Piece. Depuis très très longtemps, je suis One Piece depuis à peu près les débuts. Enfin, les débuts ont à peu près 2001, même vrai que ça soit que ça ait commencé en 1997. Voilà, on va y arriver. Et ouais, c'est une véritable passion et je vis pour ça et j'ai la chance justement de maintenant pouvoir vivre de ma passion et pouvoir transmettre cette passion à toutes les personnes qui me voient et qui m'écoutent.
Alors, que fais-tu autour de One Piece ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Les auditeurs ne te connaissent peut-être pas de la radio. Est-ce que tu peux dire où on peut te trouver, où on peut t'écouter, où on peut voir tes œuvres, tes vidéos, etc.
Ok, alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle One Piece Passion justement, et il y a dessus je fais des critiques de figurines, je fais des critiques de chapitres, je fais des critiques d'épisodes, je fais aussi quelques petites théories, j'essaie surtout de présenter l'envers du décor, quelque chose qui est assez poussé pour montrer les petits détails, parce que Shiroda met beaucoup d'attention pour planquer des petites choses, des petits éléments, et l'univers est tellement riche que ça apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de joie. Et à côté de ça, j'essaie de transmettre aussi cette passion dans des conférences à travers des expositions où je monte mon musée qui a plus de 10 000 documents. Et je voudrais aussi remercier des personnes qui sont la Krusty Krew et qui font un travail admirable parce que ça permet de mettre en place des décors qui permettent de donner vraiment une alchimie complète au niveau de ce musée. Et je remercierai aussi d'autres personnes parce que j'aime bien remercier. C'est tout simplement la chaîne O Blue Channel qui m'accompagne dans les conventions et qui a aussi une très très bonne vision de cette œuvre.
Alors tu dis que tu es fan de One Piece, qu'est-ce que tu veux faire autour de One Piece ? Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que c'est juste des vidéos, des choses comme ça ? Ou est-ce que tu veux, on voit dans tes vidéos que tu as des collections, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, un but, quelque chose autour de tout ça ?
Le but, c'est de partager cette passion que j'ai autour de One Piece jusqu'à la fin de One Piece. Je vais pas vous mentir, j'ai 41 ans, le même âge que Oda, et j'aimerais bien être le papy manga d'ici plusieurs années, peut-être dans 15 ans, et continuer à parler toujours de One Piece, et de transmettre cette passion qui pour moi sera toujours vivante jusqu'à la fin, parce que pour l'instant, il reste encore énormément de choses à découvrir.
Donc là, nous sommes dans ton stand, tu es entouré de beaucoup de croquis, de choses comme ça. Et est-ce qu'un jour tu vas les partager ? Comment veux-tu ? Est-ce que tu veux les partager ? Comment veux-tu les montrer, etc. Toutes ces que tu montres aux conventions, est-ce que tu as un but aussi de les montrer quelque part ailleurs ou faire quelque chose avec ?
En gros, c'est une collection que je prends et comme j'ai dit, j'ai 10 000 documents, mais je ne peux pas faire un musée quelque part. Je n'ai pas le droit déjà par rapport à la Toei, j'ai pas le droit de montrer quelque chose et de le faire payer. Voilà, on va parler un petit peu juridiquement. Et donc le but, c'est de faire un musée itinérant, c'est-à-dire que j'ai tous les éléments chez moi et après, et ça peut être n'importe qui, ce n'est pas seulement que des conventions, des écoles peuvent me contacter, je peux faire des expositions, montrer ce que c'est l'animation, c'est vraiment très important, parce que j'ai des storyboards, j'ai des gengas, j'ai plein de choses. Et oui, parce que de toute façon, je compte développer le musée pour avoir la globalité de One Piece. Donc, il me reste encore beaucoup de choses à avoir.
Et est-ce que tu pourrais expliquer One Piece à des gens qui... Donner l'envie de découvrir One Piece à des gens qui ne font pas forcément lire le manga ou regarder l'anime ?
C'est très, très dur de donner aux gens l'envie de découvrir One Piece parce qu'ils sont rebutés par un élément important, c'est le nombre d'épisodes et le nombre de chapitres. Par contre, autour de vous, c'est sûr et certain que vous allez avoir quelqu'un qui va vous raconter One Piece. Donc allez voir cette personne que vous connaissez qui est fan de One Piece. Et cette personne-là va pouvoir vous raconter le début. Et à partir sûrement de Enies Lobby ou vraiment Water 7 Enies Lobby, où ça prend vraiment un panache absolument fou, là vous allez pouvoir découvrir par vous-même l'œuvre. Mais faites-vous accompagner, c'est la meilleure des solutions. Et surtout, n'ayez pas peur du nombre ce nombre pharaonique qui fait peut-être 700 épisodes, 800 chapitres, parce que vous allez passer à côté d'une œuvre. Et c'est peut-être énorme ce que je vais dire, mais qui va révolutionner plus tard la vision qu'on a du manga, comme par exemple Dragon Ball a révolutionné à sa manière, par son dynamisme, le manga. One Piece, par sa narration, va développer le manga, va lui donner une autre vision.
Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire aux fans de One Piece qui nous écouteraient, etc.
Oui, le dernier mot, c'est tout simple, c'est que One Piece, c'est la vie.
Merci beaucoup.
Ah bah, c'est moi qui te remercie énormément. Salut.
C'est la fin de la Japan Tour Festival 2017 et je suis avec un autre invité surprise. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bonjour à tous, je suis Frédéric Zolfelli alias Paradra dans la websérie Noob. Moi je suis à Tours ce week-end-là parce que je fais de l'animation rétro gaming et gaming sur scène à base de défis rétro et d'affrontements sur Bomberman qui est un peu mon jeu fétiche, et parce qu'aussi il y a eu la projection du film 3 qui clôture la websérie Noob en fait. Donc du coup j'étais là et j'ai pu répondre à une FAQ avec les gens qui avaient découvert le film 3 sur le salon. Voilà.
Donc tu as cité Noob, est-ce que tu peux décrire aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cette série, etc.
Bien sûr, bah moi en fait je joue le rôle de Sparadrap qui est le prêtre healer dans la série en fait. Noob, ça suit les aventures d'une guilde qui s'appelle la guilde Noob en fait, à travers un MMO RPG fictif qui s'appelle Horizon. Donc on suit les aventures, ça fait 8 ans, 8-9 ans qu'on fait ça, donc il y a 8 saisons, 5 saisons en fait de la web série diffusée sur YouTube et autres et sur la chaîne No Life. Et 3 films. Trois films qui ont été réalisés grâce au crowdfunding que nous avons fait en fait. On est champion européen de crowdfunding d'ailleurs, parce qu'on avait demandé 35 000 euros pour faire un film et finalement on a eu 680 000 euros. Donc du coup on s'est dit voilà, autant remercier les fans en leur faisant 3 films au lieu de faire un seul film à 35 000 euros. Voilà.
Est-ce que tu as de futurs projets, de choses à annoncer où on pourrait te suivre, etc. Et où on peut te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Quels sont les différents liens pour te suivre ton activité?
Alors moi je suis streamer, hein, tous les jours je stream du rétro gaming sur ma chaîne avec Zamanat en fait, et qui est ma coéquipière de jeu. Et vous ça, alors le stream vous pouvez le retrouver sur ma page Twitch Sparadrap Guild de Noob. Autrement vous pouvez me retrouver sur Twitter Fred of the Dead et pareil sur Facebook Fred of the Dead, il me semble la page fan. Donc n'hésitez pas, vous pourrez regarder tout le monde mon actualité. Autrement je serai les prochains mois qui arrivent en salon avec Kayane, parce que je fais des animations scéniques avec Kayane, notamment à Fréjus et à Clermont-Ferrand le mois prochain. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et à nous affronter sur nos différents jeux.
Merci beaucoup de ta petite interview, c'est très gentil à toi.
Eh bien, merci à vous surtout et gros bisous.
Eh ben, on vient de s'écouter du coup quelques interviews que nous a fait Ferdi pendant la Japan Tour 2017. Voilà.
Donc, je les remercie ceux qui ont accepté les interviews et dans la semaine prochaine, il y aura ceux qui ont été malheureusement oubliés, mais ils ne sont pas oubliés, ils ont été voilà pour des questions de temps dans notre émission.
Moi, je propose 3 applaudissements chacun pour le boulot de Ferdi. Ouais, oh, félicitations.
Voilà. Merci, bravo. Messieurs.
Merci beaucoup.
Ce n'est qu'un début parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont venir nous voir après. Ouais. Voilà, ils sont super gentils, c'est des gentils invités.
Et on a hâte de les voir.
Alors du coup, pendant que vous avez écouté ça, nous on était en train de jouer à la Switch, mes comparses de radio étaient en train de tester la Switch. On va donc prendre des impressions à chaud, moi je donnerai les miennes après quelques heures de jeu, je suis à plus d'une quinzaine d'heures de jeu, donc j'ai un petit peu plus le recul. On va commencer par toi, Ferdi, à chaud là comme ça, qu'est-ce que tu as pensé de la Switch?
C'est une vraie console de jeux vidéo, j'ai l'impression de me retrouver à les mêmes sensations que la Super Nintendo, des choses comme ça. Je suis moins devant un objet technologique ou une console comme la PlayStation 4 ou l'Xbox One, je suis plus devant un vrai jeu.
D'accord.
Ça, j'ai l'impression d'être devant un vrai truc pour jouer, qui est fait pour jouer, qui a... Enfin, là, on a testé un peu Zelda avec le gros pad, on a testé avec les Joy-Con, j'ai l'impression d'être devant un jeu. C'est vraiment ce qu'on pourrait trouver dans les catalogues de jouets. Mmh. Voilà, le but premier des jeux vidéo. Quoi.
Est-ce que l'objet te plaît?
L'objet me plaît, la qualité d'écran, j'avais déjà vu, est assez impressionnante. Mais c'est surtout la facilité avec laquelle ça se fait, en fait.
C'est
là, tu viens nous montrer, on a testé Zelda, on est passé de Zelda avec une maniabilité, donc avec la grosse manette, le gros jeu, c'était Paperclip, c'est ça
Snipper.
Donc, plus petit jeu, avec plus petit truc, avec une autre maniabilité, une autre façon de mettre l'écran et tout ça. Et ça s'est fait, mais ultra naturellement, quoi. Il n'y a rien eu, pas eu d'installation. T'as fait clap, clap, et c'est fait.
C'était instantanisé. Ouais.
Voilà, alors, le Zelda, il a l'air fou.
Faudra le tester plus en profondeur, voilà. J'imagine.
J'ai vu des notes sur certains magazines qui sont normalement totalement opposés. Hein. Pour l'instant, JVC Game Cult, qui d'habitude, quand il y en a un qui adore un jeu, l'autre lui met 3. Et là, les deux sont totalement d'accord de dire que c'est génial.
Tout le monde est d'accord.
Canard PC dit, pour l'instant, tease que ça va être une très bonne note. Enfin, pour tout le monde, c'est une révolution. Donc oui, moi, je suis content, Nintendo est de retour.
Mieux qu'Apple.
Alors, maintenant qu'ils ont vendu des consoles, il va falloir qu'ils amènent des jeux.
Exactement.
Ils n'ont plus le choix.
Ok. Voilà. Tes impressions à chaud, Tom?
Alors, moi, ça va être à peu près la même chose que Ferdi, c'est-à-dire, genre, pour l'instant, j'aime bien la maniabilité. Après, moi, je fais partie des gens qui ont plutôt des petites mains. Et je pense que, voilà, quelqu'un qui...
les basketteurs vont pas aimer. Hein.
Voilà, les basketteurs, les gens qui font des travaux un peu manuels, les maçons, les trucs comme ça, les gens qui ont des grosses mains, ils vont se pendre. Parce que déjà, par exemple, la distance entre le joystick et les boutons est très très réduite. Alors moi, évidemment, hein, j'adore Nintendo, mais là, je vais surtout dire les trucs négatifs. Les trucs positifs, je pense que tout le monde va s'en charger. Donc je vais essayer de juste vous parler des trucs que, pour l'instant, que j'ai pas aimé. Là, je sais pas si c'était juste parce qu'elle était en version portable, tu vas me dire, mais j'ai trouvé la luminosité de l'écran pas dingue.
Je l'ai mis au minimum.
Donc voilà, c'était au minimum.
D'accord. En plus, t'as joué à Zelda par un temps d'orage. Donc...
Et voilà, par contre,
c'était minimum. Là, en plus,
ouais. C'était minimum. Là.
Ah, c'est quand même pas mal. Pour du minimum, voilà.
Pour du minimum, c'est bien. Par contre, là, je te rejoins complètement que la qualité de l'écran, c'est le premier truc que j'ai vu. Quoi. Ouais. J'ai pris le truc, c'est bon. La qualité de l'écran est vraiment bien.
Bah, ça me rappelle la Vita ou certains téléphones portables.
Ouais, voilà, vraiment agréable.
La première Vita.
Je suis tout à fait d'accord. Première Vita. J'aime pas trop la position des sticks. Je trouve que ça a un peu 15 ans de retard.
C'est pas faux ça. Même la qualité du stick.
Ouais. Voilà. Le
ressenti
du stick est pas terrible. Les boutons sont vachement cool par contre. Ils cliquent bien. Ça c'est hyper cool. Et là, je suis tout à fait d'accord niveau accessibilité. Comme disait Ferdi tout à l'heure, ça prend deux trucs, deux secondes pour enlever les manettes, deux secondes pour lancer un jeu, deux secondes pour apprendre à y jouer. Voilà.
Quelque chose qui a été perdu. Dans les jeux vidéo
Nintendo
dans les,
sur 20
dans voilà. les consoles
ouais, exactement ouais. Je lui mets la note de Nintendo
et
sur
qui a été perdu par Nintendo avec la Wii, la Wii U qui était quand même la Wii, moi je me souviens le premier menu qui était complètement dégueulasse quoi.
Qui était
totalement illogique pour une console quoi.
Mais là c'est cool, on est sur du voilà, Nintendo année Super NES sur 20 pour l'instant. Mais j'ai peur que, enfin voilà, pour l'instant il n'y a pas trop d'autres jeux que Zelda, on est d'accord hein.
Par contre, vu la gueule du Zelda, t'imagines si le Mario ils font pareil. Tu sais, t'as le Mario 10 sur 10. Bon bah qu'est-ce qu'on fait, on rentre.
Non mais c'est vrai que pour le coup moi aussi le Zelda, je pense même m'acheter une Wii U. Ça, juste ouais. Malheureusement pour le faire, pour voir à quel point est-ce que les gens ont raison quand ils mettent 20 sur 1 sur des jeux. Donc voilà.
Ok. Ah.
Bien joué.
Ouais bah je pense que je vais être assez d'accord avec mes confrères de c'est la faute à manette. Ouais, c'est très agréable à jouer. C'est vrai que bon, les sticks, on a vu mieux. Je pense à la manette de Xbox One qui reste indétrônable à ce niveau-là en termes de qualité de prise en main. À voir sur du long terme. Moi, je pense, faudrait que j'essaie. J'ai envie de tester. C'est surtout d'avoir les Joy-Con enlevés de la tablette et de jouer vraiment comme je veux à mon aise en fait.
Tu pourras tester ça tout à l'heure.
Pas de me bloquer en fait à l'avoir dans les mains la console. J'ai envie de pouvoir me poser, etc. Et c'est vrai que, bah, comme on voit dans les publicités, comme on voit depuis l'annonce, ça a l'air d'être simple d'utilisation. Ça a l'air d'être du Nintendo et voilà quoi, on demande pas plus au final. Mais je pense que ça sera, je pense la prendre, ça sera une console d'appoint. C'est-à-dire que tu peux rien faire juste avec une Switch. C'est toujours ça le gros problème.
C'est le problème
avec les consoles de Nintendo.
Aussi, puisque bon après c'est la console Nintendo.
Ce sera pour le catalogue de Nintendo, c'est-à-dire j'aurai Bayonetta 3 dessus. C'est dur à dire Bayonetta 3.
Ouais.
Bayonetta 3 dessus, tous ces trucs là, mais à côté il me faudra quand même un PC ou une PS4 pour faire les gros jeux quoi. Mais ça reste une très bonne console, je pense, pour le voyage, pour quand je suis dans mon lit, etc. Quoi.
Puis j'ai hâte de voir ce que les éditeurs vont sortir, parce qu'il y a des jeux qui vont sortir que sur elle.
Beyond Good and Evil 2.
Non, mais niveau gameplay, ce que je veux dire. Il y aura Shin Megami Tensei aussi sur Switch. Il y aura.
Attends, toujours Persona 5, hein, si on d'ailleurs, qui sort dans un mois.
Un mois.
Le 4 avril.
4 avril
de ce que j'ai vu, apparemment.
Bientôt.
Mathis, il n'y a que toi, hein. Ouais. Puis on n'a pas eu l'avis encore.
Oui, il reste moi. Alors du coup, moi à la base, j'étais vachement sceptique par rapport à cette console-là. J'avais regardé énormément de tests par rapport à ça. Et je m'étais dit, ouais, ça c'est n'importe quoi. C'est une sorte de Wii U portable qu'on peut mettre dans un dock pour avoir une vue limite HDMI. Quoi. C'est comme si tu branchais en fait un câble et tu l'avais sur ta télé. Et en fait, bah vraiment pas en fait, pas du tout. C'est une super console en fait. Je l'ai testé du coup tout à l'heure en fait. Bon, c'est vrai qu'au niveau, je suis assez d'accord par rapport à Guillaume. Les joysticks sont pas extra, pas formidables. Sinon, au niveau de Zelda, c'est incroyable, c'est une révélation en fait. Le côté RPG qu'ils nous ont rajouté par rapport à rien que la cuisine en fait. C'est simplement la cuisine, je pense que je vais l'acheter juste pour ça en fait.
Et non, la cuisine excellent. Est ultra simple, hein, moi pour y avoir joué en tout cas à un certain moment. La cuisine, en gros, tu prends jusqu'à 5 ingrédients dans tes bras, tu balances tout dans la poêle, ça fait plop 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 plop.
Avec une petite musique super sympa et tout.
Ça te fait un plat quoi. Voilà, c'est Zelda qui a couché avec Skyrim, qui a couché avec Far Cry.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, après, t'as dit que tu avais joué une quinzaine d'heures à Zelda ?
J'y ai joué une quinzaine.
Dis-nous maintenant.
Voilà, après 15 heures, genre sans spoil, pourquoi est-ce que ce Zelda est si bien ?
Pourquoi c'est un GOTY ? Alors, on va être tout à fait honnête, pour moi ce n'est pas le meilleur Zelda de tous les temps, simplement parce qu'il y a Majora's Mask derrière.
Ouais, voilà, bah oui.
Ça c'est vraiment.
Mais tu l'as pas fini, tu peux pas savoir.
Pour l'instant, je pense qu'il le détrônera pas.
C'est pas la même. Niveau ambiance,
c'est serve.
Peu importe. C'est la première fois dans un Zelda où tu te sens enfin libre. Enfin, j'ai pas connu moi le Zelda à l'époque de 1986 où tu effectivement t'avais une grande carte, mais je pense que c'était le but de d'Aonuma, hein, c'est ça qui développe le jeu. C'est de retrouver les sensations de ce premier Zelda.
Et de Ocarina of Time, la première fois que t'es dans la pleine Hyrule.
Voilà. Là, là, tu te sens complètement perdu. C'est-à-dire que t'arrives, tu vois un groupe de gobelins, tu te dis bon bah ça va être comme dans tous les Zelda, trois coups d'épée, c'est plié. Sauf que tu te fais défoncer, littéralement défoncer. Donc il faut que tu te balades, que tu craftes des choses, que tu ailles chercher des armes. Tu te sens libre, t'as l'impression de jouer vraiment à Elder Scrolls, effectivement, avec la sauce Zelda, le côté mignon de Zelda. Et par exemple, un truc tout con, si tu tues, je sais pas, un cerf au loin, ça se transforme en steak. Voilà, ça se transforme en steak. Tu vas pas le dépecer comme dans un Far Cry, ouais. Tu vas pas. Voilà, ça reste du Nintendo. Toutes les fondamentaux d'un Zelda sont là. Il y a les peuples qu'on connaît, il y a l'ambiance un petit peu comique parfois de Zelda, il y a ce côté qui sait rester sérieux quand ça le veut. En tout cas, ça reste du Zelda, mais vraiment modernisé. C'est Zelda n'existe plus. Zelda est mort. Vive Zelda.
Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Il est bien parce que depuis 30 ans, enfin, ils ont changé le jeu, quoi. En fait.
Sort d'ici, ça.
C'est ça, on est d'accord.
C'est un petit peu ça. Au niveau de la machine en elle-même, la batterie est un petit peu faible, hein, quand on joue à Zelda. Il l'avait dit de toute façon, 3 heures environ, ouais, quand tu joues à Zelda. C'est vrai, c'est un petit peu plus. Et les Joy-Con, en revanche, eux, durent une vingtaine d'heures chacun. J'ai pas encore réussi à les poser. Donc, non, c'est très large. Et ils se rechargent automatiquement quand tu docks la console avec les Joy-Con.
Alors, j'ai des petites questions annexes, si ça vous va, avant que je finisse là-dessus. Oui. Est-ce que il y a aussi le WiiWare sur cette console, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter des jeux d'anciennes consoles, comme c'est le cas sur la Wii U?
Alors, pour l'instant, non, ça va arriver. Pour l'instant, il y a des jeux Neo Geo.
Pourquoi pas?
Ouais, oui, bon, déjà, c'est déjà suffisant pour moi.
Des Metal Slug, des jeux de combat, et donc voilà, c'est déjà pas mal.
On va faire des petits Fatal Fury avec.
Partout.
Je pense qu'on en reparle dans 2-3 mois quand.
King of Fighters, s'il faut une compatibilité, genre tu peux jouer avec un Joy-Con, tu vois. Genre, comme tous les jeux.
Il y a besoin de 4 boutons pour King of Fighters 98. Hein.
Bah oui, mais imagine le mettre.
King of Fighters 98, où tu veux, dans tes toilettes, tout ça. Ah, pardon.
Je vous montrerai le store tout à l'heure, hors émission.
J'avais une deuxième question, du coup.
Est-ce que c'est 60 FPS?
Déjà, combien d'FPS? Non, autant les performances graphiques, très franchement, c'est con à dire, mais malgré. Enfin, de toute façon, ça reste une console portable, donc ça, voilà, ça reste quelque
chacun
chose d'agréable.
Chacun son point de vue.
Et combien que ça coûte? Surtout pour nos auditeurs.
Combien que ça coûte? Alors ça coûte, allez, on va dire
de l'argent.
D'une fourchette, on va dire 300 euros. Ça s'est arrondi à 300 euros en moyenne. Ça reste peut-être un peu cher, c'est le prix de la nouveauté, c'est le prix aussi de. Voilà.
Ouais, je pense que.
À savoir que la Xbox One à sa sortie coûtait 500 euros et la PS4 400.
Effectivement, ça reste du matériel un petit peu moins haut de gamme, mais ça reste raisonnable pour ce que ça proposera dans le futur.
En fait, il faut aussi penser.
Le futur est radieux pour cette console.
Il faut penser aussi à tout ce qu'il y a en technologie, rien que les manettes qui sont pleines de capteurs. C'est comme une Wiimote sans le capteur que vous mettez sous votre télé, avec des vibrations HD, enfin ce qu'ils appellent ça. C'est un foufouron de technologie assez innovante et qui présage mais des fonctionnalités de ouf. Je veux dire, Just Dance, je pense, sur Switch, doit être ouf. Enfin, c'est bête de dire ça.
Je peux pas te dire, mais.
Je pense que rien que Just Dance, ça doit être génial. Parce que ça a l'air simple, ça a l'air de marcher du tonnerre, quoi.
Et surtout, enfin, voilà. Il y a ce côté, on est enfin détaché d'un fil. C'est tout con. Mm. Mais sur la Wii, il y avait toujours ce fil à la con entre ta Wiimote et
ta Wii. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah
ouais,
non, c'est nouveau ça.
Bah, il y avait le PS Move qui faisait.
Et encore, il y avait besoin d'une caméra, il y avait encore besoin d'une installation du tonnerre. Que là, t'as vraiment rien, quoi.
C'est
là qu'on a l'air
de
jouer tous les deux.
De malade.
On a joué tous les deux avec Tom, mais comme ça, quoi. Tu te claps.
Tu imagines, il ferait un Switch Sport. Tu t'éclaterais de ouf.
Non,
enfin, c'est bête, mais.
D'ailleurs, quand tu rebranches le Joy-Con à la tablette, ça fait un petit clic. Tu sais, le petit clic.
Comme dans la pub.
Faudra le mettre à la radio tout à l'heure. On essaiera de le classer.
On essaiera de le classer. un de ces quatre.
Non, ouais. Bah, c'est. Ouais.
Donc voilà, je pense que c'est une console qui a de l'avenir. On suit ça de près.
Le 3, le 3 Nintendo.
Je crois, parce que là, on est déjà bien dans le.
On fait juste un petit tour de table pour finir en disant juste oui ou non.
Oui.
Gros oui. Énorme oui.
Gros oui.
Oui. Oui.
Moi, je vais dire oui dans un an.
Dans un an, oui,
voilà, quand il y aura des jeux.
Oui.
Moi, oui, mais je sais pas encore quand. Est-ce que ça va arriver prochainement ou pas? Je sais pas. Le temps me le dira si je craque avant ou pas.
Okay.
Parce que Binding of Isaac. Pardon.
Ouais, et puis moi je sais pas trop en fait. Je suis vraiment dubitatif, quoi. Entre je suis un oui pour Zelda total et un non pour le prix en fait. C'est surtout ça qui me bloque. 300 euros,
ça va baisser.
Mais du coup, d'ici un an, ça devrait baisser.
Ouais, voilà, d'ici Noël, je pense qu'ils vont faire une gamme de prix
Switch
pour baisser
Slim.
Le prix,
Ah d'ailleurs, petite news, pas du tout dans les news, l'Oculus Rift a baissé 200 euros.
Ouais. Oh. Wow. Putain, j'ai cru que t'allais parler des Star Citizen.
Et aussi Star Citizen.
Vas-y, fais un truc.
Non, j'ai... Enfin,
besoin,
si tu veux,
je sais que t'en as besoin.
Tu veux que j'en parle ? Alors, Star Citizen, on a eu la date de la 2.6.3.
Il y
a
budget.
Super. Voilà. C'est en 0, c'est en mars. La 3.0, c'est pour fin d'année.
Voilà, merci Tom.
On va pas l'avoir en mars normalement.
Petite pause musicale, du coup.
Ouais, tout à fait.
Ouais, je veux présenter. Alors, c'est El Mobo, c'est un compositeur de musique que j'ai rencontré qui participe en ce moment à un jeu qui s'appelle Double Kick Heroes, un jeu 2D pixel art de shoot en voiture avec un gameplay de jeu de rythme.
Ok, voilà. Alors on s'écoute ça tout de suite du coup.
Et on s'écoute ça et on se retrouve juste après dans C'est la faute à manette sur Radio Campus Tour 99.5 FM.
Donc vous venez d'écouter sur Radio Campus Tour Double Kick Heroes, Destroy and Race and Groove, donc composé par El Mobo. Donc alors, je répète, Double Kick Heroes, c'est un jeu qui va être disponible sur Steam au milieu de l'année en accès anticipé pour une sortie en fin d'année. On recevra donc le compositeur de ce jeu que vous venez d'écouter à l'antenne pour nous parler de musique et de la création musicale dans les jeux vidéo. Voilà. Et soyez curieux, Double Kick Heroes, il y a une démo sur Internet. Une démo. Eh oui, ça existe encore.
Incroyable. Une démo.
Incroyable. Du coup, on va passer directement au débat. On va mettre une petite musique de fond. Hein. C'est l'OST de Zelda Breath of the Wild. J'avais pas pu m'en empêcher, malheureusement.
Ah, mais en fait, c'était ça l'indice. On a dû regarder.
Bah oui, en plus, j'en ai disséminé partout des indices. Je vous raconterai tout ça hors émission. Il y avait plein de choses qui étaient. Par exemple, l'image de succès que j'ai mis sur la page Facebook, c'est retourner sa veste le plus vite possible.
Effectivement.
Ça fait sens. D'accord. Désormais. Voilà, les succès trophées, Tom, tu vas nous en parler.
Alors, qu'est-ce que c'est les succès? On va faire d'abord une petite description. Normalement, tout le monde connaît, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, donc, ce sont des petites récompenses donc, qui sont purement virtuelles, en fait. Oui. C'est composé d'une petite image et d'un texte, la plupart du temps, qui sont secrets ou non, et donc en fait qui se débloquent dans le jeu en faisant certaines actions. Hein. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme par exemple finir le premier niveau, comme des choses très compliquées. C'est apparu donc en premier sur 360. Il y a eu des proto-exemples, hein, évidemment, de succès dans les jeux avant.
On va dire que la démocratisation.
Mais voilà, la vraie démocratisation et le fait de les mettre surtout en ligne, parce que là, on parle sûrement d'un pur mesurage de membres, en fait. Hein, les succès, ça sert surtout à ça. C'est arrivé donc sur 360. Dès son lancement, donc en 2005, et ensuite donc Sony, pour changer, a fait son mouton et est arrivé 2 ans après, en 2007, donc sur PS3, et ensuite tout le monde en fait.
Et surtout l'a copié après, c'est-à-dire que les premiers jeux PS3 n'avaient pas de succès.
Pas de succès
à l'époque,
exactement.
Enfin, pas de trophée
pour le coup. Mais c'est vrai que Sony s'est dit tiens, ce serait sympa de l'intégrer, et c'est vrai que les succès ça avait jamais été intégré de manière globale, c'est-à-dire qu'il y avait souvent des objectifs, par exemple dans World of Warcraft à l'époque, des hauts faits.
Alors moi, un des premiers vraiment exemples que j'ai en tête, c'est un Star Ocean 3 qui avait justement des succès en fait, d'accord, mais qui se mettait sur une sauvegarde secondaire en fait sur la carte mémoire, d'accord, et qui donnait accès aux costumes en fait, aux costumes secondaires des héros. Cool. Et du coup, c'était vraiment des succès. C'était battre tel boss en moins de temps ouais, réussir à compléter le compendium, ce genre de petites choses. C'est vraiment des succès, ça mais 10 ans avant quoi.
D'accord, ouais, ouais. Ça s'inspirait déjà, mais c'est vrai que là, on est arrivé vraiment à un truc global.
Oui, alors maintenant, tout le monde, voilà, presque tout le monde connaît les succès. On peut faire d'abord, je propose encore une fois un petit tour de table pour présenter qui est plus ou moins addict au succès ici, parce qu'on a des, voilà, on a à peu près tous les niveaux d'addiction.
Je te laisse donner la parole.
Bien, écoute, on va commencer par toi, Julien.
Pour vous donner une idée, mon G-score Xbox est de 170 000. Voilà,
c'est que t'as beaucoup de jeux, c'est différent.
Alors, qu'est-ce que c'est le G-score
d'abord ? Alors, concrètement, le G-score, c'est la somme de tous les succès que tu débloques dans tous les jeux de console.
C'est le longueuromètre.
Sachant qu'il y a 1000 points par jeu.
Sans les DLC.
Sans les DLC et 200 points par jeu dématérialisé.
Non, maintenant, c'est...
Cas,
ouais,
à l'époque, en tout cas, c'était, voilà, c'était comme ça. Ce qui fait que, vous pouvez calculer, hein, ça fait l'équivalent de 170 jeux boîtes, ce qui est déjà pas mal, hein, mais j'en ai bien plus que ça, bien sûr. Je ne fais pas tout à fond. Il y a certains jeux que j'ai rongés de long en large en travers. J'ai eu aussi une période un petit peu trophée, succès hunter en tout cas, et chasseur de trophées. Oh. Voilà, c'est fini. Maintenant, je joue pour le plaisir. C'est une expérience que je renouvellerai pas forcément.
D'accord. Voilà. On va passer à Guillaume du coup.
Moi du coup, je connais depuis la Xbox 360 et un des premiers éléments, les premiers jeux que j'ai eu, c'est un des premiers que j'ai fait MLG, c'est alors Assassin's Creed 2.
Ok.
Et ouais, j'ai eu les 100 plumes de Petruccio. voilà.
C'est le premier moi, tu vois, il était chiant à faire.
Ah ouais. Bah voilà, moi c'est le 2 MLG et c'est le seul que j'ai fait en MLG. Ah non. Et Fast and Furious Forza Horizon. MLG aussi.
Oh mon dieu.
Easy, hein, ça se fait en 30 minutes. Mais voilà, et non, en fait, c'est un kiff. C'est-à-dire que j'aime bien avancer un jeu pour avoir des succès, mais c'est pas pour autant que je le ferai à 100%, tu vois. Genre, je suis content quand je suis sur Steam que je vois que j'ai un petit succès ou un petit truc dans mon inventaire. C'est, je sais pas, ça donne envie de continuer. C'est pas forcément genre, ouais, il faut que j'ai tous les succès. C'est, j'essaie d'en avoir le plus possible, mais j'essaie pas de les avoir tous. C'est vraiment, j'essaie d'avancer le jeu pour débloquer le truc, plus de trucs possible. Mais quand ça va être genre finir le niveau en moins de temps, sans mourir, sans prendre un coup, j'abandonne des fois.
Ouais. Voilà. Du coup, Mathis, toi, les succès.
Alors moi, ça a commencé avec Metal Gear Solid 3, où en fait, on devait, par exemple, ne tuer personne, et du coup, tu obtenais une arme. Et moi, en fait, j'aime vraiment ça, en fait, dans les succès, c'est lorsque t'as le petit bounty à la fin, le petit truc
le
en
petit
plus.
Truc, la récompense.
Ouais. Ce qu'on retrouve pas dans Steam, avec la profusion de hauts faits qu'on peut avoir dans tous les jeux et tout. Malgré tout, ils ont instauré en fait le système de niveau au niveau des comptes Steam, et ça peut pousser en fait à vouloir faire ça, ouais.
Avant de passer à Ferdi, je vais parler de mon expérience à moi, comme
je
ça on va vraiment du.
Et on a oublié juste de parler d'un tout petit truc. Oui. Le G-score sur Xbox c'est un score global, tandis que chez Sony et sur Steam c'est un système de niveau.
C'est chiant sur PlayStation, je trouve.
C'est un peu chiant sur PlayStation, effectivement. Il y a des trophées différentes
formes,
de bronze à platine.
Voilà. Donc moi pour mon expérience avec les succès, j'ai commencé à vraiment aimer ça avec Halo 3, qui est vraiment le jeu qui m'a fait un peu plonger dans les succès, vraiment sur ce jeu là en fait, on jouait en multi aussi pour les succès, et donc en fait je trouve qu'il y a vraiment des jeux qui poussent à faire les succès et qui sont vraiment excellents là-dedans, et c'est typiquement des jeux dans lesquels je suis capable de me plonger vraiment longtemps, même sur PC type Binding of Isaac qui a des bons succès, qui sont bien à faire. Et justement qui montre très bien en fait, qui donne un bon aperçu de à quel point qu'on a fini le jeu. Donc surtout pour les roguelikes, je trouve que ça marche hyper bien. Et je suis toujours en fait, c'est quelque chose que je recherche toujours, c'est quand j'achète un jeu, j'aime bien aussi regarder des reviews qui parlent des succès de ce jeu, genre est-ce que ça vaut vraiment le coup, parce que moi je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée à un jeu. D'accord. Donc voilà, je suis plutôt tombé dedans aussi, largement plus sur 360 que sur PS3, etc. D'accord. Et un petit peu sur PC aussi, même si je trouve que sur PC c'est un peu moins intéressant.
Ce qui est peut-être bien maintenant aussi, c'est le fait que genre sur les consoles next gen, ce que j'aime bien sur la PS4, c'est que t'as le succès et t'as le screenshot en même temps du succès.
Oui,
c'est je trouve ça sympa. Cool ça.
Ah, c'est pas mal ça.
Moi quelque chose
du moment T où
dans des jeux comme Bloodborne, c'est super jouissif de te dire ah tiens, tu l'as eu là au moment où t'as buté le boss, et c'est vraiment cool. Voilà.
Quelque chose que je trouve assez intéressant. Moi, que je qui n'est pas sur la 3.6, c'est que sur Steam, on peut facilement accéder à combien de pourcentage de personnes qui ont le jeu ont le succès.
Chez Sony, vrai, on peut aussi.
Et chez Sony, on peut aussi. Alors, je crois pas qu'on puisse sur One.
Si on peut si aussi.
Okay.
C'est mal fait,
tout le monde peut le faire. En tout cas, sur Steam, ça se fait en deux clics. Et là, encore une fois, le mesurage de sexe est total. c'est vraiment. Il y a vraiment un petit sentiment de pouvoir se la péter en disant regarde, attends, j'ai tel succès, il y a que 2% des joueurs qui l'ont. Voilà.
Ah là, t'es trop fort.
Donc, voilà, c'est exactement moi. C'est entièrement pour ça.
Ta barre de succès.
Ma barre de succès dépasse l'entendement. On va passer sur Ferdi qui va pouvoir nous chier dessus.
Moi, je me sens un peu seul autour de cette table. Alors comment dire, non, les succès, alors la 360 avait moi le jeu, mon jeu favori dessus, c'est Dead Rising 1 qui m'a fait acheter la 360, et les succès étaient fous parce que les succès en fait c'était ce qu'on appelait avant des solus dans les magazines, c'était des indications pour avoir des éléments bloqués du jeu. Et moi oui, j'ai fait le succès pour tuer plus de 50 000 zombies.
53 000.
Ouais, je l'ai fait pour avoir la tenue de Megaman dans le jeu. Et oui, et je n'ai pas honte, et j'étais content. Mais maintenant, en fait, les succès, c'est quand ils ne m'apportent rien d'autre qu'un petit screen ou un petit truc, je les désactive automatiquement. Ça veut dire que sur ma X360, sur mon Steam, sur ma PS3, ils sont désactivés. D'accord. Je ne sais pas quand j'en gagne. Et je m'en moque. Voilà. C'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment plu. Les seuls qui m'intéressent vraiment, c'est quand c'est des indicateurs d'astuces. Quand c'est des choses, genre, bah, comme j'ai dit, Dead Rising, quand c'est pour te guider ou dans certains roguelites. Par exemple, Binding of Isaac, c'est l'exemple parfait parce que ça permet de te guider sur des éléments cachés. Voilà, là c'est intéressant. Mais sinon, c'est quelque chose en fait, moi, qui au bout d'un moment me fait sortir des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dès que c'est un jeu, un RPG ou un truc comme ça, je ne supporte pas que le jeu me dise ce que j'ai bien fait, ce que le jeu me demandait. Voilà. Par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, Fallout New Vegas sur Steam, la première fois que je l'ai installé, quand le jeu me dit que je suis allé dans le bon endroit et tout ça, j'étais comme ça, je fais non, tu me dis pas que je suis allé à cet endroit-là. C'est un jeu, j'ai une liberté d'action. Je les ai désactivés tout de suite. Voilà.
On a parlé du coup de notre avis à tous sur les succès et du coup des choses plutôt cool que ça apporte. On peut justement après Ferdi, voilà, on peut après Ferdi, je pense, parler un peu des dérives des jeux.
Des dérives, est-ce qu'on pourrait pas parler de succès qui sont cool et d'autres qui sont pas cool? Je vais bien faire les cools.
Voilà, je propose qu'on fasse, si on doit en avoir au moins tous en tête, un cool, un pas cool. Je propose qu'on.
Alors, un cool, j'en dirais deux en fait.
Bah, vas-y.
Il y a le fameux pré-start de Les Simpsons, le jeu qui se moque allègrement des succès. Tu commences le jeu, tu appuies sur start, tu as un succès, le jeu se fout de ta gueule. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Le nain dans l'espace de Half-Life épisode 2. Tu te trimbales un petit nain pendant toute l'aventure et à la fin, tu le mets dans une fusée, il part dans l'espace et ça te fait un succès. C'était génial.
D'accord. Voilà. Guillaume, un bon succès, un mauvais succès?
J'en ai pas de bon là tout de suite. J'en ai un très mauvais qui m'a gavé des heures et des heures quand j'avais mes 49 succès sur 50 de Assassin's Creed 2. Ce n'était pas les plumes de Petruccio qui manquaient en dernier. C'était faire tomber 4 personnes en simultané avec l'arme d'Ast.
Putain, d'accord.
Et ben, je vous parie d'essayer de faire ça. C'est relou. Et je sais où je l'ai fait. Je l'ai fait devant la place Saint-Marc à Venise. Et quand j'y étais à Venise,
en vrai,
il y a quelques semaines, et ben j'ai dit à ma copine, et ben tu vois, c'est là que j'ai fini Assassin's Creed 2. Juste là.
Et là, il a poussé 4 touristes et il a passé une semaine
en sortie de Valbard.
Voilà.
Très vite, Ferdi.
Bah, moi, le succès pour avoir la tune de Megaman, parce que c'était la population en fait du jeu. Donc ça avait un clin d'œil dans le jeu. C'était un petit quatrième mur de brisé. Voilà.
D'accord.
Et sinon, le dernier dans Binding of Isaac, parce que moi j'ai eu, pas dans Afterbirth Plus, pas dans Antibirth, mais dans Afterbirth Plus, j'ai eu tous les pourcents. Quant à l'écran final, du côté Platinum, 100%, mais 120% le jeu.
C'est beau.
Voilà. Quand t'as des jeux aussi longs, quand t'as 400 heures, que t'as enfin cet écran-là, oui, d'accord. Là, je peux comprendre l'amour des succès.
Moi, un bon succès, bah, je vais parler d'un des premiers que j'aimais beaucoup, c'était Halo 3, justement, et ses succès multijoueurs, qui en fait donnaient une vraie satisfaction, particulièrement un qui consiste à renverser quelqu'un avec le quad en multijoueur.
Warthog.
Le quad, la mangouste.
Pardon.
Pas le Warthog, avec le petit quad en multi, chacun pour sa pomme. Donc il fallait avoir une map avec le quad, il fallait que quelqu'un soit suffisamment bête pour ne pas appuyer sur la seule touche, le saut, qui te permet de sauter par-dessus le quad. Et du coup, il y avait une vraie satisfaction d'avoir eu quelqu'un, c'était assez dur et c'était agréable d'avoir ce succès. Et en mauvais succès, je vais parler de toute une catégorie de succès, c'était ces jeux qui avaient des succès genre finir en normal, finir en difficile, finir en très difficile.
Ouais,
on le fait en très difficile et ça débloque pas les autres.
L'acte 1 en normal. Voilà. Termine l'acte 2 en normal.
Ou alors le célébrissime Avatar, le maître de l'air qui se débloque
qui se débloque en quelques secondes. Voilà.
Un autre exemple, parce que ça je voulais placer Ghost Recon Advanced Warfare, je sais pas
oui.
Si les gens se souviennent de ce jeu.
Qui était un bon jeu.
Il y avait un succès qui demandait d'être tout simplement le premier mondial. Voilà. Je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche. 30G.
Seulement 30.
Seulement 30. Parce que faut pas déconner quand même les succès.
Et hein, on peut parler aussi. Vas-y Mathis, toi.
Alors moi j'en ai pas en tête. Par contre, je me souviens de succès qu'on avait dans World of Warcraft.
qui eux étaient vachement bien, parce qu'en fait c'était par exemple pour les donjons, les choses comme ça, on avait un succès, terminer le donjon, il y avait aussi le système héroïque et tout. Mais sinon j'en ai pas de mauvais, non.
D'accord.
Bon alors globalement les succès, vous aimez ça?
Non.
Non.
Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup.
Soit tu aimes bien.
Moi je dis oui, je voulais juste parler vite fait de, je sais pas si vous connaissez Stallion 83.
Ça ne me dit rien.
Oui, je le connais.
C'est le plus grand, il a fait un objectif à l'époque, c'était 1 million gamer score.
Ouais. D'accord.
Et du coup c'était d'avoir 1 million gamer score, il l'a fait il y a plus de 3 ans, et il est aujourd'hui à plus de 1 500 000.
Ah, oui,
et du coup tu peux voir son compte Xbox, et tu vois qu'il a fait tous ses jeux à 100%.
C'est un fait tout à 100%.
Alors, c'est dingue, il a le record du monde. Ouais, c'est un ouf.
Dans le même genre, je vous conseille une chaîne YouTube qui est américaine, qui s'appelle The Completionist. Donc le complétionniste, qui en fait chaque semaine finit un jeu à 100%, et donc quand c'est un jeu avec des succès, il les fait tous.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et bah on va s'arrêter là-dessus du coup.
On va passer.
On a un
quiz.
On fait un quiz accéléré.
On se met le jingle vite fait. Allez.
On se met juste le jingle quiz. Est-ce que tu as un stylo? Hein, parce que ouais.
Est-ce qu'on peut écrire avec la
Switch? Est-ce qu'il y a la fonction Apple Café? J'adore ce jingle parce qu'on peut faire n'importe quoi pendant. On a le droit. C'est bon.
YOLO.
Ah ouais, c'est totalement.
On dirait que Ferdi à la voix de Gilles Well.
T'as que 6.
Oh, ouais.
Bonjour à tous, c'est Gilles Well. On est dans un mode relax. C'est Ferdi. Et voilà, au revoir. Pardon.
Et donc, c'est parti pour le quiz. Vous avez pour ce troll. De fond, c'est comme la dernière fois. Hein, j'ai interrogé des gens qui avaient joué à des jeux il y a très longtemps. Il m'a raconté quelque chose. J'ai retranscrit ça. Tel quel, hein, et du coup, il va falloir deviner le.
On rappelle que pour répondre, il faut donner son prénom et lever la main.
Et lever la main. Tout le monde joue, hein, bien sûr.
C'est excellent. Okay. J'adore ce jeu.
Alors, c'est le jeu là où tu le sors pas mal quand il y a tous tes amis un peu cons et bourrés. D'ailleurs, bourré, c'est bien le mot, hein. Il n'y a même pas besoin de regarder l'écran, juste de faire des gestes de masturbation comme ça et de loler entre deux secouages.
Guillaume, WarioWare, Smooth Move,
Ferdi.
Oui.
Et Wii Sport.
Non, 400 euros pour ça, putain.
400 euros.
Oh la vache.
C'est sorti il y a très peu de temps.
Tom, le PlayStation VR?
Non.
Guillaume, Just Dance?
Non.
Pas besoin de regarder l'écran.
Ah, Ferdi, tout clic Switch.
Un de Switch, ça te fait deux.
C'est celui avec les vaches.
Ouais. Avec les vaches, 400
balles. Et tout, là. Non, mais, et en plus, il y a une façon de faire, hein, sinon tu ne sors pas de l'air.
Question numéro 2 pour 2 points. Alors, c'est ce jeu-là qui prône la maltraitance animale. En gros, imagine que tu mets ton chien dans une boule et tu joues au mini-golf avec. Enfin,
Game Super Monkey Ball.
Oui, effectivement.
Ah,
oui.
Ah, bien joué.
Sauf que c'est plutôt des labyrinthes tendus et que le chien ressemble pas trop à un chien, mais plutôt à un singe. Voilà. Et personne sait pourquoi il y a eu 12 épisodes de ce jeu.
Ouais, c'est dingue.
Parce que c'est un bon jeu, en fait. C'est vraiment bien, Monkey Ball. Vas-y.
Question numéro 3 pour 2 points. Alors, c'est le jeu là où tu évolues dans un monde. Attends, là il y a une cinématique. Ah oui, je disais. Tu évolues dans un monde un peu steampunk.
Guillaume, The Order.
Oui, The Order 1886, c'est ça.
Ça marche aussi pour Metal Gear.
Je disais qu'il y avait des filtres et qu'en 5 heures de jeu c'était bouclé.
Ah, voilà. Pas Metal Gear là.
Question numéro 4 pour 3 points. Là, celui-là il est un petit peu salé. Tu te souviens les témoins de Jéhovah? Enfin, tu sais, ces gens qui viennent sonner à ta porte pour te parler de Dieu. Et bah, de ce que je me rappelle, c'était ça. Enfin, je sais que le jeu, il faisait une grosse fixette sur les portes, à tel point qu'ils avaient leur propre cinématique et que le
Tom, Resident Evil.
Resident Evil, c'est ça.
Ou plutôt
Resident Evil.
Et que le témoin de Jéhovah était armé. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase qu'on dit pas souvent quand on croise un témoin de Jéhovah. No, don't go. Voilà. Question numéro 5 pour 3 points. Alors ce jeu, c'est vraiment une simulation de sortie père-fille au pays des démons. Imagine, le père, il est super vieux, il en fait trop, il combat tout ce qui peut être zombie, du vrai zombie autant que zombie, tout ça pour plaire à sa fille. Enfin, je sais même pas si c'est sa fille d'ailleurs, c'est bizarre.
La
fille, oui.
Last of Us.
Non. La fille, elle a son propre DVD PS2. En fait, ils l'ont séparé de l'aventure parce qu'en plus d'être rousse, elle est horrible à jouer. Heureusement, on la reverra plus jamais après ça. Merci Capcom. On attend toujours le 5ème épisode d'ailleurs.
Le 5ème? Oh là.
Oh là là.
Qu'est-ce qui finit par un 4 avec un père-fille?
C'est pas obligatoirement le 4.
Dead Rising?
Non, c'est pas ça. Avec des démons, Capcom.
Merde.
Devil May Cry.
Lequel?
2.
Oui, effectivement, ça te fait 3 points, effectivement.
Oh, qu'est-ce qu'il était mauvais.
Il était horrible. Allez. Question numéro 6, et dernière question pour ce soir, pour 3 points. Alors, ce jeu, c'est une simulation de PCiste. Alors, au début, normal, tu vis dans le noir, tu mates ta voisine par le trou de la serrure, mais plus l'aventure avance, plus il faut que tu survives entre deux mises à jour de Star Citizen. Du coup, le gars, il fait un trou dans sa salle de bain, sûrement pour faire passer l'épisode plus
Tom, facilement. Silent Hill 4.
Silent Hill 4, effectivement, c'est
les trous dans la salle
c'est
de bain.
Exactement ça.
Après quelques jours, son appart, il commence à pourrir, ça commence à faire un peu peur. C'est là que le jeu devient méta, le jeu, il se fait descendre par la critique, et donc il devient victime de sa propre communauté. Est-ce que je vous ai mentionné qu'il y avait des tas de cadenas autour de la porte d'entrée?
C'est ça.
Voilà ce qui conclut donc
c'est Guillaume
quiz, ce qui conclut notre
avec
émission
7 points.
Spéciale. Wow. C'est Guillaume qui gagne. Waouh. Wow. C'est rare. Félicitations Guillaume, on peut l'applaudir.
Merci moi.
C'est fait une émission dense.
C'est fait une émission dense.
De la Switch, hein. De la Japan, du succès.
Il y en avait énormément. Et la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va.
On fera une émission ralenti.
On aura peut-être un invité.
Peut-être un invité.
Voilà, je ne veux pas en dire plus.
On vous remercie de nous avoir écoutés. À dans deux semaines. On vous fait plein de bisous. On essaye de mettre à jour bientôt les émissions. Elles vont arriver. Pas de problème.
À bientôt tout le monde.
À bientôt. Ciao.
À bientôt. Et on se retrouve avec quelle émission juste après ?
Jazz Story.
Et oui.
Allez, à dans deux semaines. Ciao.
Allez, salut.